journal La Tribune dimanche. Première pierre d'un projet de réforme de la justice dont les détails seront annoncés cet automne, selon le garde des Sceaux. Ce nouveau parquet doit, selon lui, renforcer notre arsenal judiciaire. Le ministre veut aussi lancer un véritable statut du repenti, à l'image de ce qui existe en Italie contre la mafia. Les peines seront réduites et les repentis pourront changer d'identité. On y reviendra dans la matinale à partir de 6h. La crise ne va pas s'arrêter avec les mesures, a prévenu hier soir le syndicat La Coordination Rurale. Après les dernières annonces de Gabriel Attal dans la Manche pour en finir avec la crise agricole, le Premier ministre propose de faciliter l'accès au crédit pour les agriculteurs. Un nouveau système de retraite à partir de 2026 ou l'accélération des chantiers des retenues d'eau. Ces mesures conviennent à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs qui restent en revanche très vigilants concernant leur mise en place. Des manifestants dans les rues de Tel Aviv hier soir en Israël. Ils demandent aux autorités du pays un accord sur la libération des otages. Réaction après la diffusion par le Hamas d'une nouvelle vidéo montrant des otages israéliens. Une diffusion au moment où les négociations de trêve dans la bande de Gaza assorties de libération d'otages se poursuivent ce week-end avec le Hamas. Aux États-Unis, près de 200 manifestants pro-palestiniens ont été interpellés hier dans 3 universités. Les secours mobilisés à 3 reprises hier pour récupérer des migrants au large du Pas-de-Calais dans des embarcations en difficulté, indique la préfecture de la Manche et de la mer du Nord. 99 personnes ont été secourues. Elles ont été déposées à Boulogne-sur-Mer. La veille, 54 migrants avaient été pris en charge. Plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages en France. En revanche, près de 6000 foyers étaient encore privés d'électricité ce samedi soir dans le sud-ouest, selon Enedis. Principalement en Dordogne, en Corrèze et dans le Limousin, les orages et les rafales de vent ont entraîné des dégâts dans la journée. En Dordogne, des arbres sont tombés sur des lignes électriques entraînant des perturbations sur les rails. Le Paris Saint-Germain dans la douleur hier soir au Parc des Princes. Le club de la capitale a été freiné par Le Havre. Résultat match nul, 3 buts partout. Paris a égalisé en toute fin de match. Les Parisiens vont devoir attendre pour fêter leur 12e titre de champion de France. Il peut tout de même le PSG être sacré ce dimanche soir en cas de faux pas de Monaco à Lyon. Et puis en rugby, les Anglaises bien plus fortes que le 15 de France féminin hier soir. Elles se sont imposées 42-21 lors du dernier match du tournoi des Six Nations au stade Chaban-Delmas à Bordeaux et décrochent leur 6e titre dans la compétition. Un match avec un record d'affluence pour du rugby féminin en France. Plus de 28 000 spectateurs dans les tribunes.
Place au documentaire sur France Inter, avec Charlotte Perry, des vies françaises.
Moi qui ne crois à rien, je suis athée, je crois qu'il y a une chose, à ma chance. Depuis le 18 juin 2023, où j'ai été décoré de la Légion d'honneur, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Alors je crois que je suis peut-être mort. Et je dois rêver ce qui m'arrive parce que c'est trop, c'est impossible. J'ai une chance extraordinaire.
Elle est là, hein, la Légion d'honneur.
Elles sont là, elle est là, là-bas. Ah, Légion d'honneur. Eh oui.
On va s'asseoir.
On va s'asseoir. À la libération, je vais être, je sais pas, numéro 5 ou numéro 6 parmi les dirigeants de la résistance parisienne. J'ai jamais dormi, j'ai dirigé des opérations formidables à Paris. Vous savez, un de mes plus beaux souvenirs, j'étais sous le métro aérien Jean Jaurès, et je me souviens qu'un capitaine Patrick, qui était un adjoint du colonel Roll Tanguy. C'était l'artificier qui nous avait appris comment on maniait les armes, comment on servait de grenade. Il s'approchait de moi. C'était vers le 8e jour ou le 7e jour de l'insurrection. Et il est venu, il m'a dit, « Guy, le colonel Roll m'envoie pour te demander qu'est-ce que tu en penses. Les Allemands demandent une trêve. Est-ce que tu acceptes ?» Et j'ai dit « Non ». Et il est parti dire au colonel Rolf, qui n'était pas d'accord pour faire une grève. On était comme ça. On s'est battus comme des lions. Les 10 jours d'insurrection, ça a été de la folie. Alors on voulait se battre, on voulait pas baisser la tête. On nous avait insufflé quelque chose de magique. On y croyait, et on avait raison d'y croire. Puisqu'en définitive, on a libéré Paris. Parce que c'est nous qui avons libéré Paris. Attention, j'ai discuté au Mont-Valérien avec des historiennes quand on m'a décoré la Légion d'honneur. Et justement, mon fils n'était pas content après moi, mon fils aîné. Parce qu'à un moment, l'historienne a dit l'armée Leclerc a libéré Paris. Alors j'ai dit, attention, madame. Là, vous faites une erreur historique. Je dis, l'armée Leclerc est arrivée le dernier jour de l'insurrection. C'est vrai qu'ils nous ont aidés à libérer ce jour-là la place de la République, mais les 8 jours d'insurrection, c'est nous, les jeunes communistes, qui avons libéré Paris. C'est pas l'armée Leclerc. Alors mon fils m'a dit, papa, t'aurais pas dû dire ça. J'ai dit, bah, je m'excuse, je dis ça parce que c'est la vérité. Ça a été tellement falsifié. L'existence, c'était nous, il n'y a pas d'histoire, c'est comme ça. Je suis très fier de ce qu'on a fait. La récompense que j'ai, c'est pour mes copains. Hein. Moi, vous savez, les médailles, elles restent là. Hein. Je ne vais pas mettre des médailles, ça peut me faire. La médaille, elle est là.
La tête ?
Voilà, oui, absolument. Tout est à eux.
Aucun de vos copains a été décoré de son vivant ?
Personne. Jamais.
Vous êtes le seul.
Oui, je suis le seul. Et puis je suis le dernier, voilà. C'est encore une fois la chance. La chance. Et je voulais vous dire justement, j'avais prévu aujourd'hui à dire une chose que je n'ai pas encore dite, je crois. Ma principale chance, c'est la première. C'est d'avoir rencontré ma femme. Je l'ai rencontrée le jour de la libération de Paris, le 25 août 1944. Elle était enfermée depuis 2 ans et 3 mois dans un appartement au 209 rue Saint-Maur. Depuis l'âge de 13 ans et demi jusqu'à 15 ans et demi, elle avait mis le nez dehors. Et le jour de la libération, elle est sortie quand les cloches sonnaient. Elle a été voir une copine à elle d'enfance, qu'elle connaissait depuis Berck-Plage, où elle fréquentait les jeunesses communistes à l'époque juive. Cette copine, c'était ma première copine de résistance. Je venais de m'engager dans l'armée française, j'étais sous-officier, sergent-chef, j'avais 18 ans. Et ce jour-là, donc, je viens dire bonjour à ma copine, et elle me présente son amie d'enfance. Et après, pendant 65 ans, on a vécu ensemble. Une vie extraordinaire. C'est elle que je dois le tout. Elle est là, elle est partout.
Elle est en photo, là ?
Oui, avec mes deux fils, là. Elle me rate 82 ans, vieille, le 6 février 2009. Et c'est une catastrophe. La vie a fait con. On nous a séparés, c'est comme ça. Mais on a eu une vie... C'est innommable. J'ai eu la chance, mon lieutenant dans l'armée m'a appris un métier, je ne savais rien faire, résistant à 16 ans. Vous savez, à 18 ans, quand je l'ai rencontré, j'étais avec ma jeune fiancée. Il me dit, Guy, appartenir à un pistolet, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, Jean, je ne sais rien faire. Écoute, je suis contremaître dans une maison de maroquinerie chez mon oncle, viens, je vais t'apprendre un métier. Et on a eu de la chance, on a réussi. J'ai fabriqué des sacs pour dames, en tant qu'ouvrier à domicile d'abord, puis un petit atelier, puis un grand atelier avec 10 personnes. Puis ma femme a pris un magasin rue du Temple. On a eu un succès fou. Et on a gentiment réussi, sans faire d'esbrouf. Mais voilà, on a eu une belle vie. Bon, moi, je vais vous montrer ce que je veux montrer. C'est là. voilà avec ma femme. À la libération de Paris.
C'était fin août 1944.
Oui.
Juste quand vous êtes rencontrés.
Oui, c'est ça. Mais... 18 et 16 ans. Regardez comme elle est belle. Oui. Vous rendez compte de cette beauté. Un jour, pendant que j'étais militaire, sous-officier, je chantais tous les soirs avec un orchestre. Quand le spectacle s'est terminé, j'avais fait un ramdam terrible, on me porte en triomphe, et quand Thérèse, qui était là-haut au poulailler, quand je suis remonté, elle m'a dit, tu sais, Guy, c'est moi ou c'est la chanson. Alors,
il y a tellement de femmes autour de vous qu'elle était un peu jalouse.
Elles étaient tout autour de moi. Alors, je chantais, mais pour la cour. Bon, je jetais des pièces par la fenêtre. Chez moi, quand je piquais à la machine, ils jetaient des pièces dans la cour. Ils auraient dû m'entendre chanter. Mais j'ai chanté. Là. Je peux plus maintenant. Mais enfin, je dis ça, mais j'aime tellement chanter. Alors... Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et les mexas, faut être idiot.
Comme un petit coquelicot,
mon homme. Comme un petit coquelicot.
Un tout petit coquelicot.
Quelle belle chanson. Mouloudji, c'était ma passion. J'ai chanté des dizaines de chansons avec lui. Quelle vie j'ai eue. C'est une vie extraordinaire. J'ai eu la chance de tous les côtés. La chance de rencontrer ma femme, la chance de rencontrer mes copains, et puis d'être là à 98 ans pour raconter tout ça. C'est impensable. Aïe, aïe, aïe.
Retrouvez des vies françaises, les portraits de Charlotte Perry, sur franceinter.fr.
Si pour rapper j'ai mes deux couilles, j'ai ma chebousse. Si y'a derrière j'ai ma casquette, si y'a des gouttes j'ai ma stevée. C'est Salomon mis la rage sur moi, Salomon au palace avec les vœux en bataille. Un chevalier citadin, observateur sur le champ de bataille. Grosse capuche, on est toujours au pluriel. On se couteau à pied, à plusieurs dans une pièce. Ça magouille, ça s'écoute pas, ça fume, ça refait les toncards. J'ai bien étudié leur cas et en rap ils ont pas mon quart. J'esquive les pigeons et les gueuches sur le mic, ça éclabousse avec la bouche. L'heure et les joints tournent, je vais bientôt y aller. Faut combler les jointures, esquiver la voie droite et les voitures. Je suis dans ma cave et je me ris comme du bon vin. Je fais des tracks pour me convaincre. Parfois je sors là, je suis dans le trône. Je me suis rempli d'artefacts. Faut pas se faire happer par les fads. Je garde une distance car ça peut bousiller ma trick. C'est un mal. Mental solide comme le mar. Le flow qui mouille comme le rose. Je suis défoncé comme l'euro. Nique un raciste plus sa fille. Nique ton avis dans la foulée. Je suis bien chez K dans la foulée. Et je marche comme si je suis recherché. Histoire que personne vienne faire chier. Je suis bien dans des skates bas, dans des birks, dans des clacks, dans des caves, dans des parcs. J'ai ma structure, je compte mes bars. Je gère ma DA et mon bif. Big up à The, big up à cela depuis le départ. Une main tendue vers une autre, c'est comme ça qu'on est d'un frère. Gros, je vais jamais lâcher le steak, voilà les plans qu'on élabore. Là, je suis à Paname, je suis dans le nord, je suis toujours pas sur une boussole, ça se bousille. Je suis toujours pas dans un label ou dans une cage. Mettez-moi donc une case. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. L'ayez pas accroché à la terre, ferme légèrement sectaire. Faut que je vais trop mon texer. Faut que je témoigne avec mes frères ancestres. On se rappe dessus, c'est comme ça qu'on s'exerce. Kawa au joint, chacun son réveil, choisis ton camp. J'ai bien choisi mon plan, je sais où je vais, d'où je viens. Une dose de plus, ça tous, on est tous rien. À 12 ou tout seul, je me la raconte pas. Je suis loin des stades, des stars et de la compète. Dans l'œil, j'ai un compas, dans la gorge, j'ai des grosses flammes. Je rappe jusqu'à ce que la mélo se calme. Pour de vrai, on dirait que je rappe des ordres sur l'orque sur les ondes. J'suis pour de vrai, je vais pas te dire deux fois, que tu sois qui que ce soit. J'suis focus, j'suis pas sous tease le soir. Mes démons dans l'oreille, j'les attends sur le ring. J'ai la passion qui abîme, j'suis heureux, j'ai sa main dans mes cheveux. Son parfum sur mes habits. Un chevalier citadin, observateur sur champ de bataille.
France Inter.
Je ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux, entrelacés, lèvres asséchées par l'amour, l'amour de l'autre. Je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir, penser hier en guérir. Oh, je rêve, je rêve, je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve, je rêve, je rêve que tu es. Je sens dans ma poitrine mon cœur qui s'arrête. Je rêve et je fais mine de n'avoir pas senti passer cette réalité qu'endormie tu resteras, mais plus jamais à côté de moi. Je rêve, je rêve, ah, je rêve, oh oui, je rêve. Je ne fais que rêver, imaginer ton devenir. Si seulement t'avais laissé le temps de le construire. J'ai tant aimé t'aimer, je ne cesserai de le faire pour de la mort. N'empêche pas de rêver, alors je referme les yeux et je rêve. Je rêve, je rêve. Je rêve, oh oui, je rêve. Je rêve que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là.
Merci de passer la nuit avec France Inter. Voici maintenant Secret d'info.
Et bonjour à tous. Depuis plusieurs mois, des groupes d'ultra-droite se regroupent pour manifester et même en découdre, en affichant pour certains leur sensibilité néo-nazie. Mais qui sont ces militants ? Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Pendant six mois, vous les avez observés sur les réseaux sociaux. Vous allez donc nous raconter ce qui se passe en coulisses. Et puis nous recevrons Samuel Laurent. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, nous irons à Agde, où le maire là était sous l'emprise d'une voyante qui l'a couvert de cadeaux payés par la collectivité et même par des chefs d'entreprise.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
80 manifestants entrent par petits groupes dans le quartier. Ils défilent avec pancartes en tête de cortège, fumigène rouge en main et en hurlant ses slogans.
La rue, la France, nous appartient. La rue, la France.
Voilà un extrait d'un reportage de France Bleu Drôme-Ardèche diffusé le 26 novembre dernier. Après une marche qui a eu lieu à Romans-sur-Isère, des militants d'ultra-droite appellent à venger un adolescent de 16 ans qui a été tué lors d'un bal à Crépol. C'est en fait ce rassemblement qui a réuni des militants venus de toute la France qui était en fait le déclencheur de notre enquête, Frédéric Mettezeau. Mais d'abord, on va préciser les choses parce que le vocabulaire a un sens. Quand on parle de l'ultra-droite, on parle de quoi précisément ?
Oui, alors, ultra-droite, c'est d'abord un terme policier utilisé pour qualifier les groupes d'extrême droite, violents, voire terroristes. Mais il est aussi repris, ce terme, par certains universitaires qui parlent d'ultra-droite pour désigner les mouvements d'extrême droite qui refusent de participer aux élections, contrairement aux partis d'extrême droite qui, eux, s'impliquent dans la vie politique.
Donc c'est pour ça qu'on va parler d'ultra-droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ultra-droite aujourd'hui, Frédéric ? On vient de parler de mais est-ce qu'elle est plus active qu'avant, cette mouvance ?
Alors, visiblement, oui. J'ai posé la question à un cadre haut placé au ministère de l'Intérieur qui suit de près les groupes radicaux en France et lui parle clairement d'une désinhibition violente. Il a souhaité rester anonyme. Nous avons donc fait lire son témoignage.
L'ultra-droite monte en puissance et en dangerosité. Elle est réorganisée et elle se montre plus facilement car les échanges sont plus faciles via les réseaux sociaux. Il y a des violences dans la rue, elle assume de faire peur et de provoquer. On voit un phénomène plus visible, plus jeune et dynamique. Il y a un risque de passage à l'acte, on n'est pas à l'abri d'une attaque de mosquée.
Donc la radicalité s'incarne dans la réalité.
Oui, c'est ce que m'a dit le sociologue Stéphane François, cet enseignant à l'université de Mons en Belgique est l'un des meilleurs connaisseurs des mouvements d'ultra-droite. Et lui aussi considère que de nombreux militants peuvent être plus dangereux qu'avant.
On a des générations plus jeunes de militants qui veulent revenir à une forme de romantisme politique avec un retour au militantisme brutal. Ça se voit de plus en plus. Ils n'ont plus peur. Ils viennent au contact, littéralement, je pense à Crépol. Et dans le cas du maire de Saint-Brévin, là, on a quand même des menaces vis-à-vis d'un maire. Même sa maison a été brûlée. Donc voilà, il y a une certaine impunité.
Ouais, à Saint-Brévin, on le rappelle, le maire avait été menacé parce qu'il était question de déplacer un centre d'accueil pour étrangers. Mais s'ils sont plus violents, ces militants d'ultra-droite, Frédéric, est-ce que pour autant ils sont plus nombreux ?
Alors non. Leur nombre est relativement stable depuis plusieurs années. Écoutez à ce sujet le député Renaissance Éric Poulia, co-auteur d'un rapport parlementaire sur l'activisme violent. Je lui ai demandé combien il y en avait en France.
Véritablement actifs, on serait autour de 3000, dont 1300 fichés S. C'est une population assez stable, on nous dit. Et c'est une population qui est assez connue par les services de renseignement, qui est assez bien identifiée.
Bien identifié. Mais qui sont-ils alors ?
Eh bien, pour le savoir, écoutez le commissaire Frédéric Lauze. Il a été en poste pendant plusieurs années aux renseignements généraux. Il dirige aujourd'hui le syndicat national des commissaires de police et il nous dresse le profil de ceux qui sont surveillés.
Des gens qui vont s'armer, qui vont prendre des matériaux pour essayer d'élaborer des explosifs ou tout simplement des gens qui en boucle vont utiliser un peu des trolls qui va noyer de commentaires un événement et proposer un discours d'incitation à la haine raciale, etc.
Et c'est justement pour étudier ces profils et ces comportements qu'on vient de définir, Frédéric, que pendant 6 mois, vous les avez observés sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. Tous les jours, nous avons consulté des dizaines de blogs, de médias en ligne, de comptes sur les réseaux ou de boucles Telegram, tous diffuseurs d'idées d'extrême droite, ce qui nous a permis de nous mettre dans la tête de ces activistes.
Et de tenir une sorte de carnet de bord de l'ultra-droite, en quelque sorte. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Alors ça commence avec la mort de Thomas à Crépol, donc le 19 novembre dernier. Immédiatement après, plusieurs militants décrivent cet événement comme l'assassinat gratuit d'un jeune Français blanc par, je cite, « des racailles d'origine maghrébine », alors que l'enquête judiciaire, elle, n'a encore rien établi. Immédiatement, les réseaux nationalistes s'enflamment. Écoutez ce qu'on peut alors lire sur la boucle Telegram FR Déter le 21 novembre.
Bon, ça vous dit une descente dans leur quartier à Crépol ? On casse tout. Je suis prêt à mourir pour venger notre frère. On se réveille quand ?
Et sur cette même boucle, un autre contributeur communique, lui, les adresses de personnes suspectées par la justice, ainsi que des adresses et numéros de téléphone portable de militants antifascistes, des coordonnées, nous l'avons vérifié, qui étaient bien réelles.
Oui, et puis après, peu après, la descente à laquelle ils appellent, elle a donc effectivement lieu.
Oui, elle a lieu le samedi 25 novembre. 80 personnes débarquent dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Et le lendemain, une vidéo devient virale. On y voit un homme masqué qui appelle au soulèvement. Attention, cet extrait est clairement un appel à la haine, mais il nous a semblé nécessaire de l'entendre pour mesurer la gravité de ce qui se joue en coulisses.
Peuple de France, nous vous appelons à nous rejoindre, à faire entendre votre colère dans la rue, à s'organiser face à la racaille et face à l'État qui use de ses mercenaires pour protéger ces populations qui nourrissent profondément. Nous appelons les forces de l'ordre à choisir leur camp, la patrie ou l'ennemi.
La patrie ou l'ennemi, c'est effectivement assez clair. Maintenant, ce jour-là, Frédéric, il y a eu des arrestations.
Oui, et 6 militants ont été jugés. Ils sont apprentis en mécanique, anciens militaires, étudiants ou ouvriers.
Donc aucun... des profils très différents.
C'est très varié et aucun ne vit dans la Drôme. Un seul réside dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et les 5 autres viennent de Paris, Dijon ou Besançon. Ils ont eu vent de l'expédition punitive par Telegram ou par TikTok en lisant par exemple ce type de message.
Opération de grande envergure médiatique à venir. Pas de fuite, s'il vous plaît. Sinon, ça n'aura pas lieu. Chaque chef de section est responsable de ses militants. Prenez des trics en bois, des casques et des pyros.
Ouais, on appelle clairement, on l'entend, à l'action violente. Et une fois que les 6 militants dont on parlait ont été condamnés, on s'organise d'ailleurs à nouveau.
Oui, très rapidement sur Telegram, on voit apparaître une nouvelle boucle nommée « Soutien aux gars de Romans-sur-Isère ». Une cagnotte en ligne est ouverte, des vêtements et du courrier leur sont envoyés en prison.
Ouais, donc ça, c'est pour Crépol. Maintenant, vous avez repéré un autre épisode assez notable de mobilisation de l'ultra-droite.
Oui, alors là, nous sommes le 21 janvier. 2024, cette année donc, et comme chaque année, l'association Marche pour la vie réunit plusieurs milliers de manifestants à Paris contre la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Parmi eux, il y a des militants du GUD, des catholiques traditionalistes et des identitaires. L'un d'entre eux, Jean-Eudes Gana, écrit alors ces mots très contestables sur Telegram.
L'avortement de masse est une horreur absolue, remboursée par la sécurité sociale, une des clés de voûte du système.
Du système, c'est-à-dire ?
Eh bien, le système, là, est lié à cette théorie complotiste, vous savez, Jacques, du grand remplacement. Ces militants estiment que l'avortement contribuerait à renforcer un prétendu remplacement progressif des Français dits de souche par des immigrés. Et pour Jean-Eudes Gana, cela ferait des années que les gouvernements menaceraient ainsi la France.
1974, loi Veil. 1977, regroupement familial. Au regard des alarmantes statistiques sur la natalité française, marcher pour la vie est aussi une question de survie ethnique et civilisationnelle.
Ouais, ce rejet de l'avortement, il s'exprime aussi le 8 mars dernier lorsque l'IVG, cette fois-ci, est inscrite dans la Constitution.
Oui, mais là, il va se doubler d'une autre obsession de l'ultra-droite, c'est l'antisémitisme. On le voit à Paris où se tient à ce moment-là une cérémonie officielle pour marquer l'événement. Certains mouvements autorisés, comme l'Action française, vont se déchaîner, alors que Catherine Ringer, qui est la fille d'un juif déporté originaire de Pologne, vient de chanter la Marseillaise. Voilà ce qu'on peut lire. Propos, là encore, je vous préviens, assez insupportables.
Voici le chant de la glorieuse révolution, chanté par une ancienne actrice de films pornographiques, accessoirement fille d'un couple labellisé cachère. C'est cela le tragique destin que la République de 1789 aura imposé à la France. Devenir la sale traînée du peuple élu.
Oui, alors on va préciser encore, Frédéric, hein, qu'on a tout à fait conscience que ces propos sont injurieux, mais qu'on pense qu'il est nécessaire de les entendre, justement, pour comprendre ce qui se passe. Bon, cela dit, quelques jours plus tard, une dizaine de militants de l'Action française iront, eux, saccager une statue de Simone Veil.
Oui, une action de terrain qui se passe à La Roche-sur-Yon. Et on observera la même chose après la mort de Robert Badinter, le 9 février dernier. Lui aussi était fils d'immigrés juifs polonais, et voilà ce qu'on lit alors sur l'Action française. Là, encore, je vous préviens, les mots sont d'une extrême violence et peuvent tomber sous le coup de la loi.
Mort de l'infâme Badinter, grand serviteur du régime et des droits de l'homme. Gageons que cette ordure sera panthéonisée aux côtés de l'avorteuse Simone Veil.
Et donc, on peut écrire ça sans problème sur les réseaux sociaux.
Et oui, et on voit aussi des messages qui rendent hommage à l'écrivain Robert Brasillach, un collaborateur antisémite notoire. Le 10 février dernier, 89 ans après son exécution, quelques dizaines d'activistes se retrouvent d'ailleurs au cimetière de Charonne, à Paris, où est enterré Brasillach. Cette manifestation non autorisée est annoncée sur plusieurs boucles Telegram.
Et donc ?
Et donc, la police arrête 39 personnes, dont une vingtaine de fichés S. Elles sont mises en garde à vue avant d'être remise en liberté sans être poursuivie.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors progressons dans notre récit, Frédéric Mettezeau. On a jusqu'ici parlé de rassemblement, mais il y a aussi des loups solitaires à l'ultra-droite.
Oui, par exemple, le 8 mars dernier, un militant d'ultra-droite de la Meuse a été arrêté parce qu'il appelait à s'en prendre à des immigrés. Et une semaine plus tard, un autre militant prend le relais.
Et qui ça ?
Alors tenez-vous bien, c'est un ancien capitaine de gendarmerie nommé Alexandre Juvin Brunet. Écoutez ce qu'il dit dans le média Géopolitique Profonde. Géopolitique Profonde, c'est le nom de ce média, sur YouTube.
Il faut préparer les esprits au combat. Nous allons peut-être devoir nous réapproprier les pensées, méthodes qui justement avaient été jadis utilisées par les résistants, qui étaient avant tout des combattants, et des combattants l'arme à la main.
C'est encore clairement un appel au soulèvement, là.
Ah oui, clairement. Et pour le chercheur Stéphane François, nous avons là un discours de type accélérationniste.
C'est tout simplement la théorie selon laquelle il faut accélérer la décadence, le pourrissement de la société pour arriver à un climat de guerre civile ethnique, raciale, entre les Blancs et les populations émigrées.
Et pour en arriver là, on trouve sur Internet de véritables manuels du combattant.
Oui, j'ai même pu avoir accès à une boucle privée sur Telegram qui s'adresse, je cite, « à tout militant nationaliste qui voudrait se lancer dans le cyber-militantisme ». Le logo à croix gammée de cette boucle est d'ailleurs assez explicite.
Ce qui veut dire que les réseaux sociaux laissent aussi passer des croix gammées. Bon, et qu'est-ce qu'on y apprend sur cette boucle ?
Alors on y trouve des conseils pour choisir une messagerie mail sécurisée, un VPN, un navigateur web qui ne laisse pas de traces, un logiciel de cryptage ou de paiement en crypto-monnaie, autant d'outils qui peuvent être utilisés, je cite encore, pour de l'illégal.
Et pour faire de l'illégal, entre guillemets, on donne parfois des consignes assez explicites.
Oui, tenez, comme le 4 mars, en prévision de prochaines mobilisations, voilà les consignes qui sont données aux militants.
Équipez-vous et armez-vous. Mais même si ce sont des armes détenues légalement, ne communiquez pas sur votre arsenal, ni en ligne, ni aux autres membres de l'équipe.
Et les auteurs préconisent même de laisser les smartphones à la maison. Ils expliquent que c'est à cause de ça que certains militants aux États-Unis ont été repérés lors de la tentative de prise du Capitole.
Donc là encore, on appelle au soulèvement.
Absolument, et on explique même comment faire pour saturer les forces de l'ordre.
Plus il y aura des équipes, y compris des équipes qui s'en tiennent ou semblent s'en tenir à simplement se réunir physiquement entre camarades pour boire un verre ou s'entraîner à la boxe, plus les capacités de surveillance du pouvoir seront saturées. Auquel cas, cela laissera des portes ouvertes pour mener des opérations que l'ennemi n'aura pas su anticiper.
Et l'ennemi, à leurs yeux, c'est donc l'État. Mais je reviens à mon observation, Frédéric. On peut donc lancer des appels à la haine sur Internet sans être inquiété.
Quasiment. En tout cas sur Telegram, parce que c'est une messagerie privée, même si certaines boucles sont publiques. C'est ce que relève le chercheur Benjamin Teinturier. Il est doctorant au Media Lab de Sciences Po Paris.
C'est une application sur laquelle il y a très peu de règles de modération. On est relativement libre, donc ça donne envie d'aller là-dessus. C'est toute cette ambiguïté-là qu'intéresse la droite radicale. Les lois sur la modération, elles sont plutôt sur les contenus qui sont publics. À partir du moment où un message, il est posté sur une messagerie privée, mais qu'il est potentiellement visible par beaucoup de monde, est-ce qu'il est public ou pas ?
Il l'est de fait, puisque vous avez pu y avoir accès.
C'est vrai, mais Telegram permet aussi de créer des boucles privées réservées aux initiés, boucles que nous avons d'ailleurs aussi pu infiltrer en partie. Et on s'est rendu compte que moins il y a d'abonnés, plus les participants se sentent en confiance et tiennent des propos radicaux, voire illégaux.
Secret d'info.
Alors quittons les comptes des réseaux sociaux pour examiner maintenant les publications de l'ultra-droite, Frédéric Mettezo, parce qu'il existe aussi des médias en ligne et même des revues.
Oui, chaque association, chaque mouvement, chaque collectif a son média. Et quand il n'en a pas, eh bien, il veut en créer un. Ainsi, le 24 mars, le collectif féministe identitaire Némésis lance une souscription et il la justifie avec ses propos, là encore, je vous préviens, très contestables.
Nous sommes la génération de Claire, violée par un centrafricain sous OQTF.
Nous sommes la génération de Luna, petite suédoise de 10 ans, suppliciée par un migrant dans un square et laissée pour morte.
Nous sommes la génération des jeunes anglaises blanches, prostituées en masse.
Bon, on va peut-être nous arrêter là, parce que je crois qu'on a compris. Maintenant, qui sont celles qui tiennent des propos pareils ?
Alors, j'ai rencontré Alice Cordier, la porte-parole de ce collectif Némésis, et elle m'a expliqué pourquoi elle voulait lancer son propre média.
Les autres associations néo-féministes utilisent notamment le format vidéo, le format témoignage pour diffuser un certain nombre d'idées, un certain nombre de choses. Nous, on a décidé de faire exactement la même chose, mais avec des témoignages qu'on ne voit pas forcément dans le service public, qu'on ne voit pas forcément dans ces associations-là. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont on a l'impression que c'est tu. Nous, on essaie vraiment de se baser que sur des statistiques, que sur des faits, que sur des choses que l'on dénonce.
Et ce qu'elle dénonce donc, ce serait l'immigration et une islamisation de la France qui, à ses yeux, serait la principale cause des violences sexistes.
Oui, Némésis se focalise sur des violences commises par des étrangers ou par des Français d'origine étrangère. Et chaque fait divers, même isolé, va alimenter ce discours.
Ouais, un discours qui ne s'intéresse pas d'ailleurs qu'aux violences faites aux femmes.
Effectivement, Némésis dénonce aussi la promotion de la transidentité. Et plus généralement, pour Alice Cordier, il y aurait un risque de disparition des genres.
Je pense par exemple au planning familial, qui n'a aucun scrupule à supprimer et à effacer totalement le mot femme et à en redonner une définition qui, selon nous, viserait à invisibiliser totalement notre situation. Nous pensons qu'il y a de véritables différences naturelles entre les hommes et les femmes et qu'à ce titre, oui, ça se voit dans les combats de boxe, mais ça se voit dans plein d'autres exemples.
Oui, et je précise que le mot « femme » n'a absolument pas disparu des communications du planning familial.
Ouais, précision importante. Mais cette question de la transidentité, elle est vraiment très présente dans les discussions de l'ultra-droite ?
Ah oui, sur quantité de boucles Telegram et de publications, avec des propos parfois obscènes. Et depuis plusieurs mois d'ailleurs, on voit notamment circuler la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait née garçon. Dans Complorama sur France Info, le chercheur Rudi Reichstadt nous explique comment on en est arrivé là.
Ce mensonge, il a une origine. Il a été forgé, il a été fabriqué. Et tout ça est repris par un média d'extrême droite très influent qui s'appelle Fait et Document, qui est très lié à Alain Soral et qui va donner une ampleur, une nouvelle dynamique à ce mensonge.
Et un mensonge que j'ai encore vu exploser en mars dernier.
Et pourquoi en mars ?
Parce que le 11 mars, cette rumeur a été reprise aux États-Unis par Candace Owens, une figure très suivie de la droite ultra-américaine, explique encore Rudi Reichstadt.
Elle a quand même une puissance de feu médiatique qui est absolument folle aux États-Unis, hein, vraiment spectaculaire. Et d'ailleurs, elle a été reprise tout de suite après par le pape du complotisme américain, toujours Alex Jones, qui lui-même est à la tête d'un empire médiatique en ligne. Elle a été également reprise aussitôt par une autre star pro-Trump qui s'appelle Joe Rogan, qui a une émission qui caracole en tête des podcasts les plus écoutés de la planète, hein, sur Spotify. Et donc, on a effectivement cette chambre d'écho qui s'est installée entre les États-Unis et la France, avec une sorte de viralité absolument spectaculaire d'abord aux États-Unis et qui vient nourrir en retour un buzz en France.
Et donc, la boucle est bouclée.
Voilà, le mensonge qui est né en France a été comme consacré aux États-Unis avant de revenir en force chez nous.
Mais alors pourquoi on laisse faire ? Ce que vous avez observé, Frédéric, les autorités l'observent aussi, non ?
Évidemment, et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lancé une politique de dissolution administrative des groupuscules. Mais certains considèrent qu'elle est peut-être contre-productive, cette politique. C'est le cas notamment du chercheur Stéphane François.
La dissolution ne sert à rien. Les militants des groupuscules interdits se reforment sous un autre nom, et c'est ça le risque, c'est cette individualisation. Il vaut mieux une formation avec un fil à la patte suivi de longue date par les services de renseignement plutôt que des éléments qui se dispersent dans la nature. Et là, effectivement, il y a un risque de radicalisation, d'accélérationnisme et un risque de terrorisme.
Mais alors pourquoi on les dissout si ce qu'il dit est vrai ?
Eh bien écoutez, Frédéric Loz, du syndicat national des commissaires de police, lui pense qu'il faut le faire, quand même si ça a des limites.
Du point de vue du policier enquêteur, c'est plus facile d'avoir un groupe qu'on va décrypter, qu'on va analyser, qu'on va suivre. Mais à un moment donné, l'État ne doit pas passer son temps à suivre. Il faut pouvoir entraver ces groupes. Il y a d'autres enjeux que les enjeux policiers, des enjeux de communication, de perception de l'autorité symbolique de l'État pour dire voilà ce qui est permis, voilà ce qui est défendu et pas acceptable en République. Et c'est bien de le dire, d'interdire et parfois d'amener devant les tribunaux ceux qui commettent des infractions.
Et ça arrive ?
Oui, ça arrive. Le 12 mars dernier, par exemple, 15 anciens membres de Génération Identitaire dissoute il y a 3 ans ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de s'être regroupés au sein d'autres structures baptisées Asla ou Argos qui sont très actives sur les réseaux.
Donc là, ça a fonctionné. Maintenant, ce qu'on observe aussi, et on va conclure là-dessus, Frédéric, c'est qu'il existe un rapprochement aujourd'hui entre des mouvances qui jusqu'ici ne se fréquentaient pas.
Oui, on avait les royalistes, type Action Française, les identitaires et les nationalistes révolutionnaires type GUD. Tous éclataient. Mais désormais, ils se côtoient sur le terrain, hors structure, puisque les groupes ont été dissous, et c'est un phénomène qui inquiète le député Éric Poulia.
Ils sont capables de se retrouver sur un événement et de montrer qu'ils sont nombreux, alors que quand les renseignements regardent de près, en fait, on s'aperçoit qu'on a des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui viennent d'horizons différents, mais du coup, ça fait un rassemblement à 500, 1000, 1500 personnes, alors que voilà, il y a quasiment la moitié des troupes de tout le pays qui est là.
Et ben en même temps, si 1500 personnes, c'est la moitié des troupes de l'ultra-droite en France, ça fait pas beaucoup.
Non, mais on en revient à ce qu'on disait en début d'émission. Ils ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus actifs, voire plus violents. Et on le verra peut-être le 11 mai prochain à Paris, puisque l'ultra-droite veut se donner rendez-vous pour rendre hommage à l'un des siens morts il y a 30 ans. Ce rassemblement sera donc un test pour les autorités.
Ouais, ce sera le mot de la fin, Frédéric Mettezo. Merci. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire sur franceinter.fr ou la podcaster sur l'appli Radio France. Mais surtout, restez avec nous. Un maire et des chefs d'entreprise ont pris en charge pendant 4 ans toutes sortes de travaux au domicile d'une voyante qui tenait le maire sous son emprise. Ça se passe à Agde. C'est complètement fou et on en parle dans quelques instants. La voix de Norah Jones qui nous revient avec ce single doux et entraînant, c'était Paradise, extrait de son tout dernier album.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Samuel Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié dans Le Monde une enquête sur cette affaire assez hallucinante qui se déroule à Agde. Le maire Gilles Détor est soupçonné d'avoir fait payer par sa collectivité et des entrepreneurs toutes sortes de travaux et de cadeaux qui ont été faits à une voyante. Tout ça parce que, dit-il, il était sous son emprise. Alors tout commence en fait lorsque Gilles Détor la consulte, cette voyante, comme médium. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut comme ça tomber sous l'emprise d'une voyante?
Alors c'est un grand mystère parce que Gilles Détor, il n'est pas spécialement connu pour son mysticisme. C'est un ancien officier des renseignements généraux quand même, un ancien policier. Donc on pourrait penser que c'est des gens qui normalement sont habitués à ne pas être crédules. Mais là, en l'occurrence, Gilles Détor tombe complètement sous le charme et sous l'emprise donc de Sophia M, qui s'est déjà fait un petit nom et une petite réputation dans des cercles d'élus et d'entrepreneurs de l'Hérault. Et donc il va complètement obéir, non pas à la voyante elle-même, mais à la voix qu'elle est capable d'invoquer. Voix qui pour lui est celle de son père Raymond, qui était lui-même un élu de la ville d'Agde. Et pendant 4 ans, il va obéir à cette voix de manière complètement inconditionnelle.
C'est ce qu'on comprend donc après, c'est qu'en fait, elle est ventriloque. Elle est capable de faire sortir une voix qui est une espèce de voix d'outre-tombe. Et les gens y croient.
Et c'est ça qui est assez incroyable. Alors moi, j'ai pas pu entendre les extraits audio, mais les enquêteurs qui les ont vus ou les avocats qui ont pu les entendre disent que c'est effectivement assez impressionnant, qu'elle est vraiment capable de produire une voix très masculine et presque surnaturelle. Et ce qui est fou, c'est que cette voix, elle l'a fait parler par téléphone souvent. C'est-à-dire que Gilles Détor, par exemple, elle l'a au téléphone 10 fois par jour, mais c'est la voix qui appelle, avec un jeu entre elle et la voix. C'est-à-dire qu'elle va demander, elle, au nom, en tant que Sophia, quelque chose, et puis si ça marche pas, bah, c'est la voix qui va appeler pour insister, en fait. Et Gilles Détor s'exécute.
Et il pense que c'est son père qui lui parle, qui lui demande des choses.
Oui, il pense que c'est son père Raymond, en tout cas c'est ce que lui dit pour sa défense, qu'elle a trouvé une faille qui était celle-là. Donc son père, qui était un ancien élu d'Agde, qui est mort prématurément, qui aurait pu devenir maire d'Agde, lui il est devenu ensuite. Et c'est au nom de ça, en tout cas, qu'il va se mettre à la couvrir littéralement de cadeaux et de privilèges et d'avantages, quitte à y brûler tout son capital politique.
En tout cas, le résultat, c'est que Gilles Détor, effectivement, s'exécute. Et alors là, on a un employé municipal qui va lui installer une douche solaire. Il y a toutes sortes de travaux qui sont faits à son domicile.
Alors, il y a les travaux, il y a une douche solaire, il y a un cabanon de jardin. Il y a la scolarisation de ses enfants, où ils sont scolarisés dans un établissement assez prestigieux du Gard. Ils sont amenés là-bas par le chauffeur personnel du maire.
Donc, il y a une heure de route à chaque fois.
Une heure de route à chaque fois. Visiblement, l'enquête ne l'a pas encore prouvé, mais il y a des soupçons qui tendent à penser qu'il aurait aussi obtenu le maire des réductions de frais de scolarité pour la voyante dans cet établissement à ses côtés et donc assez cher. Il fait appel à des entrepreneurs, mais ça, on va peut-être y revenir un peu plus tard, pour lui financer son mariage, qui est un mariage assez princier, des photos que j'ai vues.
On peut en parler du mariage, 8 000 euros de location du château, 28 000 euros de traiteur. Et donc ça, ce sont des entreprises agatoises qui vont payer les frais.
Voilà, parce que Gilles Détor, il n'a pas forcément une fortune personnelle incroyable, donc il ne peut pas non plus tout payer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à son capital politique,
à son réseau,
mmh. Et il sollicite des entrepreneurs locaux de la municipalité, qui là, en ce moment, sont les uns derrière les autres en train de se retrouver en garde à vue, et à mon avis, se regrettent un petit peu d'avoir rendu ses services au maire. Donc effectivement, c'est 4 entreprises au total qui ont payé le mariage. C'est aussi une entreprise assez connue, puisque c'est une filiale locale de FH, qui est un très gros groupe de BTP qui va construire une véranda au domicile de la voyante. Et là aussi, le parcours est assez fascinant parce que le patron local des Fages se voit harcelé par Gilles Détor jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Et comme il est quand même pas patron autonome, donc il a une filiale, il a des comptes à rendre.
Il a bien compris ce qu'il faisait, lui.
Il a compris ce qu'il faisait. Du coup, il dit, moi, je veux bien financer ça, mais dans ces cas-là, je réduis d'autant le budget que je donne au club de foot de la ville d'Agde. Et le maire n'y voit
aucun inconvénient. Donc, c'est au détriment du contribuable agatois.
C'est au détriment des petits agatois qui faisaient du football sur le terrain municipal, qui ont vu leur subvention réduite pour qu'on puisse construire une véranda au domicile de Sophia M.
Et même chose avec le directeur d'un hypermarché de la commune.
Voilà.
Qui, lui, va débourser 6 000 euros.
Oui, alors ça aussi c'est amusant, parce qu'en fait pendant la construction de la véranda, la voyante elle a d'autres exigences, du coup ça rentre plus dans le budget qui était prévu, qui était déjà conséquent, qui était déjà 50 000 euros, donc il faut aligner de l'argent en plus. Là le FH dit non, moi ça suffit, j'ai déjà assez donné, donc Gilles Détor va chercher un autre entrepreneur du coin, en l'occurrence voilà un patron d'hypermarché, qui lui aussi va se retrouver embêté par la justice parce qu'il a financé 6 000 euros de véranda chez cette dame.
Et dans les cadeaux qu'on lui fait, il y a notamment un contrat d'édition, elle veut publier un livre, alors là on se demande mais qu'est-ce que la voyante peut publier?
Qu'est-ce qu'elle veut écrire ?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle ne l'écrit pas elle-même. Apparemment, il y avait une autre autrice qui était chargée de mettre en mots, entre guillemets, ce qu'on appelle un nègre en littérature. Et qu'est-ce qu'elle veut raconter ?
Mais ça parle de quoi ?
Alors, a priori, ça devait s'appeler Sophia de l'ombre à la lumière. Elle avait aussi un projet de bande dessinée.
Prénom,
Sophia, c'est son prénom.
Ouais.
Elle avait aussi un projet de bande dessinée qui devait raconter son parcours, sa vie. De ce que j'ai compris, elle a eu une enfance assez difficile qui l'aurait amenée à développer ses dons de voyance et cette capacité à invoquer cette voix, sans doute pour s'en sortir dans un environnement hostile. Donc c'est ça qu'elle voulait raconter dans son livre. Et Gilles Détort, il va faire la tournée des éditeurs et lui préparer une vraie tournée de promo à Paris, etc. Enfin, il se démène pour qu'elle puisse publier son ouvrage.
Et ça va encore plus loin, puisque des proches de la voyante vont trouver du travail à la communauté d'Aglo, à la mairie. Enfin, je crois qu'ils sont 5, non, dans son entourage.
Ils sont 5 dans son entourage, dont son mari, qui se retrouve bombardé à la tête des services techniques municipaux. Et il y en a d'autres qui sont nommés, effectivement. Donc la communauté d'agglomération, à la tête de laquelle Gilles Détort est également embauche un autre proche de la voyante comme directeur des grands projets. Là aussi, c'est quand même pas un petit poste. Sa fille se retrouve nommée stagiaire au service de communication de la mairie, si je dis pas de bêtises. Il y a encore un autre proche qui est nommé à la sécurité du camp naturiste. Bref, voilà, Gilles Détort offre des postes et un peu tout ce qu'il peut offrir, finalement, comme libéralité, quoi. C'est-à-dire son capital politique et ses pouvoirs de maire... Tant qu'il peut les exploiter, quoi.
Ouais. Sauf que manque de chance, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, en octobre 2023, l'épouse du maire, ils sont en phase de séparation, hein, si j'ai bien compris, va déposer plainte justement contre cette voyante.
Oui, c'est le premier signal. Elle vient dire « j'en ai assez de cette voix qui me harcèle, qui m'appelle ». Les enquêteurs sont renforcés parce que deux jours après, il y a une autre personne proche du maire qui est un militant de son parti, qu'il a nommé à la tête d'une société d'économie mixte qui gère le port de Plaisance d'Agde, qui vient lui aussi porter plainte contre la voyante parce que lui aussi dit avoir été à un moment donné sous son emprise et estime qu'elle est dangereuse. Et puis, il va y avoir une vague de témoignages anonymes apparemment... que reçoivent les enquêteurs tout au cours de l'hiver, qui les conduit à mettre sur écoute le maire et la voyante à partir de janvier. Et là, ils vont découvrir les dizaines d'appels par jour de la voix.
La supercherie. Et du coup, le maire, lui, va mettre du temps quand même avant d'accepter le fait que ce n'était pas son père qui lui parlait, mais bien une voix de ventriloque.
Oui, alors ça, c'est la preuve de l'emprise, hein. C'est que même face aux policiers, même lorsqu'il se retrouve en garde à vue, on imagine bien que c'est pas simple quand on est maire et ancien policier d'être en garde à vue, il va continuer à persister, à penser qu'elle a des pouvoirs, à expliquer qu'il n'y a pas de problème, que c'est vraiment une femme spécial, qu'il faut l'aider, etc. Jusqu'au moment où les enquêteurs vont devoir lui diffuser une vidéo où ils ont demandé à la voyante de faire la voix sur commande. Et là, apparemment, pour Gilles Détort, tout s'effondre et d'un coup, il se rend compte qu'il a été berné.
Et la municipalité n'envisage pas de se porter partie civile. Ce qui est plutôt étonnant.
Oui, ce qui est plutôt étonnant. Alors, il faut voir que Gilles Détort, c'est vraiment c'est une principauté, Agde, sur laquelle il règne un peu sans partage depuis 20 ans. Donc, les personnes qui sont désormais à la tête de la municipalité...
C'est sa majorité qui contrôle encore les
décisions. Son adjoint, je pense, n'a pas trop envie d'ouvrir le poteau rose, parce qu'évidemment, du coup, toutes les sociétés d'économie de la ville vont être fouillées et passées au peigne fin par les enquêteurs, qui vont peut-être tomber sur d'autres choses et d'autres travaux, d'autres scandales et d'autres effets. Ce qu'on voit dans cette affaire, au-delà de l'aspect insolite, c'est aussi ça, c'est le pouvoir que peut avoir un maire comme ça, quand il est élu pendant 2 décennies, sur les entrepreneurs locaux, sur le tissu local, et le manque de contre-pouvoir et le fait qu'il règne un peu sans partage sur son territoire.
La voyante, elle, ne dit rien au juge.
Elle a décidé, oui, de ne pas parler au juge d'instruction.
Ouais, mais vous dites qu'elle aurait commencé à exercer ses talents auprès des autres détenus.
Oui, il semble, de ce qu'on m'a dit...
C'est-à-dire, voilà, elle est en train de les envoûter.
J'y mets un peu des guillemets. Je pense que pour s'en sortir dans un environnement hostile qui est celui de la maison d'arrêt de Nîmes, elle utilise
sa voix pour qu'on lui fournisse
des cadeaux. À sa ventriloquie, voilà, pour en tout cas ne pas être embêté par ses co-prévenus dans sa cellule.
Bon, quelle histoire. Merci en tout cas, Samuel Laurent. Alors, comment le maire d'Agde est tombé sous l'emprise d'une voyante ventriloque et la voix de l'archange Michael, c'est le titre de votre enquête et je précise donc qu'on peut la retrouver sur lemonde.fr et autres précisions, site payant. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique. Il y avait Adèle Caglar et Maxime Goudard. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.
Retrouvez Jacques Monin et Secret d'info en podcast et à la réécoute sur franceinter.fr.
Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre. Moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hantises qui jactent, n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quant à négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, et je fais tes crocs bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma bas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, tout me parle, pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rembat assez, j'ai mes cessé. Je tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je suis en la décalé. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, ça m'est. Je vois que des barreaux, des barreaux en fer. La bécane crie, je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je suis en la bécane. La crainte à focaliser, la haine que je ressens, mes pensées dans ce business balisé. Ah, Charles avec Cali, Cali.
Un instant, le 6-9 de France Inter.
Abonnez-vous aux newsletters.
Chaque jour, l'essentiel d'Inter dans votre boîte mail. Chaque semaine, le meilleur de l'humour et nos conseils culture.
Pour recevoir nos newsletters, inscrivez-vous sur franceinter.fr.
Bienvenue sur France.